Bonjour et bienvenue au 1AE Club, le podcast BD bimensuel qui vient me faire pipi.
Sans mieux.
Beaucoup mieux.
Mais vous allez voir, l'explication n'est pas uniquement que physiologique.
Ouais, on va parler d'une petite BD en rattrapage qui est un petit peu en lien.
Ouais, puis on va même parler de Presque Neuf aussi, qui vous donnerait envie de faire pipi dessus.
Dessus. Peut-être. Mais ce n'est pas le cas de Ultimate Spider-Man numéro 8.
Non.
Notre non. Premier. Mais avant ça, peut-être que je pourrais te présenter. Tu es Thio.
Et tu es One IP.
Nous sommes deux amis. Salut. Et nous dans. Ultimate Spider-Man numéro 8. Toujours par Brian Michael Bendis au scénario.
Ça n'a pas changé.
Toujours le même depuis beaucoup d'épisodes.
Mais pas
de la... 150.
150.
Ouais.
Oh la vache. Et au dessin, alors là, il y en a beaucoup. David Lafuente.
Principal dessinateur.
Sarah Piccelli.
Oui.
Joel Jones.
Oui.
Jamie McKelvey et Scotty Young.
Qui viennent faire des petits segments dans le numéro 150. Donc, dans cet épisode-là, on a deux épisodes, le 149 et le 150. Enfin, les Américains aiment bien se compliquer la vie. Ils aiment bien, genre, redémarrer une série à zéro pour dire « Ah, c'est tout nouveau, on recommence à numéro 1 ». Comme ça, ils se disent « Les gens vont acheter le numéro 1, ça va faire des ventes ». Puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah ouais, mais si on avait gardé les numéros d'avant, on serait déjà au 150 ». Ça en jette le numéro 150. Et si on reprenait la numérotation qu'on avait avant ? Ah ouais, trop bien ! Et ils repassent au numéro 150. Alors la question, c'est le prochain numéro d'Ultimate Spider-Man
151
ou... sera-t-il le numéro, pas 8, mais de l'ancienne série, plus 8 ? Je pense qu'en France, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat, que le prochain sera le 9.
J'espère qu'ils vont faire simple.
Peter Parker est en train de se remettre des petits problèmes qu'il a eu avec le caméléon, qui avait pris son apparence et qui a un peu foutu le why dans sa vie personnelle.
Non, il n'a pas, mis le why. Il a simplement pris plein de décisions que Peter Parker n'a jamais voulu prendre.
Voilà. Le truc, c'est qu'il a aussi fait des conneries, ce qui fait que le Shield est bien décidé à essayer d'arranger les choses. Il lui dit, on ne veut plus te voir en costume. Jamais. Spider-Man, on ne veut plus le voir. Sinon, on va devoir sévir. Parce que tu n'es qu'un indo à faire des conneries et on n'en veut pas.
C'est simpliste, mais c'est bien résumé.
Sauf que... dès qu'il a l'occasion...
tu peux pas l'empêcher. Je veux dire, t'es un super-héros, c'est dans l'âme. Je veux dire, en même temps, comment est-ce qu'il pourrait faire ? Et il a de grandes responsabilités, ouais. Parce qu'il a un grand pouvoir.
Et il fait combien de milliers de dégâts dans la ville ?
Il était pour rien.
Ouais. Non, là, il refait des dégâts, lui.
Oui, pour... mais c'est pas lui qui les fait, c'est parce qu'il est super vilain.
Oui, mais bon, il est au milieu, quoi. Donc, il est un peu considéré comme responsable, malgré le fait que Jonah Jameson prenne sa défense.
Oui, parce que rappelons-nous que Jonah Jameson a déjà découvert qui était le vrai Spider-Man. Il sait. Et là, changement quand même total. Il ne va plus détruire Spider-Man. Il va dire qu'au contraire, Spider-Man, c'est le gentil. Tout le monde devrait l'aimer.
Déjà, il avait vaguement commencé après Ultimatum. Ça avait démarré. Mais là, surtout, là où il va y avoir un changement terrible, c'est que forcément, numéro 150, donc un épisode double, le Shield fait venir ses super-héros les plus balèzes qu'il connaît, qui sont donc Tony Stark, Iron Man, Captain America
et Thor.
Et vont dire, bon... Qu'est-ce qu'on va foutre de ce gamin qui ne fait que des conneries et qui n'attire que des ennuis ? Parce qu'on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. Et donc, il demande l'avis à ces trois personnages. Et ces trois personnes vont raconter une anecdote, une aventure, une mésaventure qui leur est arrivée. Ils ont des avis pas forcément identiques, voire contradictoires avec leur propre histoire.
D'ailleurs, là, on se pose la question, qui dit la vérité ?
Ouais.
Bon, Captain America, on peut le croire.
Oui, mais Captain America, il est droit, il est carré. Il est...
Iron Man.
Il est alcoolo.
Lui, j'aurais des doutes. Et Thor.
Il vient d'un autre monde.
Et puis, il est gentil aussi. Alors, du coup, tu sais pas trop s'il dit vraiment la vérité.
Ouais, mais disons que il décide qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. La décision est prise à la fin de ce tome 150 et annonce quelque chose de très sympathique, je trouve, pour la suite. On risque d'avoir quelque chose d'assez marrant.
Intéressant.
Qui colle toujours, je dirais, avec de la BD pour ados. Hein. On est très bien dans le Spider-Man. Et qui ferait un très bon concept de dessin animé.
Oui.
Voilà.
Peut-être même de film.
Ouais, on verra.
Et donc, toi, c'était quoi tes mots pour le scénario ?
Pour le scénario.
De notre blockbusters.
Oui, captivant.
Grandi.
Tu l'as trouvé grandi ?
Ouais, moi j'ai trouvé que le scénario, là, il avait. Voilà, tu vois, ce que je disais, ce qu'on disait au début, je vois que c'était vraiment au départ, c'était vraiment un truc ado, quoi. Je trouve que là, au contraire, ça, d'un coup, ça a pris de l'épaisseur. Le personnage de Spider-Man a pris de l'épaisseur dans cette série-là.
Bah, moi, disons que le public visé reste les ados, mais ça ne prend pas les ados pour des cons. C'est-à-dire que c'est un adulte qui raconte une histoire qui parle d'un ado. L'ado est bien raconté, il est crédible, ses aventures et son environnement sont crédibles. Mais c'est quand même un monde, c'est pas comme toutes ces séries d'ados où t'as l'impression que les adultes ils existent pas en fait. Oui. C'est que les ados qui vivent entre eux, qui font leurs conneries. Là, t'as des ados qui font leurs aventures, leurs découvertes, etc. Mais il y a les grands qui sont là pour veiller quand même et faire attention. Jusqu'ici, c'était Tante May qui jouait ce rôle. On va voir ce qui va se passer.
Je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça donne envie, tu vois.
Ouais. Et là, le dessin, tu as dit quoi
c'est Ultimate, tu vois. Ça donne envie de lire la suite, quoi.
Ouais. Et le dessin, d'ailleurs.
Là, tu vois, le tome 9, moi, je l'attends. Ouais, tu vois, j'ai envie de le lire.
On reviendra plus tard sur la suite.
Le dessin, je dis que c'est un splendide mix.
Ouais, moi, j'ai dit assez inégal. Il y a des auteurs que j'ai adorés. Est-ce que chaque dessinateur, chaque histoire racontée par Thor,
va avoir son style.
Son dessinateur différent. Et il y en a, mais des énormes, quoi. Je crois que c'est Scotty Young qui fait l'histoire racontée par Thor.
Ouais.
Non, c'est superbe. Et vous aurez les adresses en cliquant sur le nom des auteurs de leur blog et site respectif. Il y a des noms.
Tu arrives à faire ça ?
Ouais, ouais. Il y a des noms super. Enfin, vous verrez que c'est des gens qui travaillent dans des styles, mais. Super surprenant de les voir dans de la BD et je trouve que c'est bien et assez casse-gueule d'avoir pris ce risque et le résultat vaut le coup.
En plus, je trouve que c'est vraiment un épisode important parce que la couverture est vraiment sympa.
Oui.
Elle te raconte toute l'histoire de Spider-Man.
Oui, il y a de ça.
Et là, nous passons donc à notre purge, la purge de juillet.
Purge de juillet, mais qui... Oh, peut-être qu'elle ne sera plus trouvable en kiosque.
Quelque part, ce serait pas anormal qu'on ne la trouve plus.
Et pourtant, attendez, Marc Millar, quoi. Marc Millar, attends, c'est pas n'importe qui. Il a fait des trucs trop bien, Marc Millar.
Non, en fait, c'est un homonyme, c'est pas le vrai.
Steve Dillon, quoi, Preacher. C'était trop bien, Preacher.
C'est un homonyme aussi, c'est pas le vrai. C'est pas possible.
Alors, au niveau... On va pas parler du genre, parce qu'on l'a dit déjà, purge. Purge super-héroïque. Au niveau du scénario, quel est ton mot ?
Nausée.
Moi, c'est fompire. Voilà. Donc, c'est une histoire de fompire. Avec Blade et Dartefil.
Un nouveau.
Oui. Bon, en gros, on prend tous les concepts qui peuvent être sympas. Petit concept pour essayer peut-être de ramener un nouveau Daredevil, qui est d'ailleurs un costume qui est le premier costume du Daredevil de l'univers normal. Mm. Ouais, super, etc. L'idée est pas mal de la façon de l'amener. On nous crée une sorte de pseudo-blade qui, pour le coup, oui, effectivement, on est plus dans l'ambiance Wesley Snipes qui se la pète. Voilà. Et avec qui se bat contre des vampires. Et ça part en vrille.
Et
tout le monde devient vampire.
Et c'est une purge. Non, en fait, moi je me dis que c'est pas un vrai numéro en fait.
C'est une blague.
C'est une blague, c'est ça. C'est pas le tome 7.
Déjà, les précédents avec Ghost Rider avaient un peu
On avait eu du mal.
Ouais, c'était difficile. Là, c'est pas difficile. Là, on peut vraiment le dire.
C'est ridicule.
On n'a pas aimé. Il y avait quelques trucs, des idées sympas. Il y a toujours quelques idées sympas dans n'importe quel BD qu'on peut prendre. C'est rare qu'il n'y ait pas d'idées sympas. Et on peut même pas dire que Steve Dillon dessine mal. Mais il a rien à foutre sur ça. C'est pas son genre, c'est pas son style. Il, c'est pas un dessinateur approprié. À ce genre d'histoire, je suis, ça me fait comme une sorte de fussoir, tu vois. Voilà. Passons à la suite. On va pas s'attarder plus longtemps sur ça.
Tu vas le jeter d'ailleurs, j'espère.
Non, parce que je pense que je vais l'encadrer pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Undread Bullets numéro 13.
13.
Si nous étions des Américains, ce serait le dernier.
Si nous étions Américains.
Nous ne sommes pas Américains, nous avons encore quelques tomes devant nous qui seront traduits par je ne sais pas qui. C'est fort dommage, parce que là, la traduction était bien. C'était Jérémy Manès, là, justement, si je me souviens bien. Là, je crois que c'est lui.
On est donc aux étapes, aux épisodes de 64 à 69 de la saga.
Voilà. Plus que 31.
Donc toujours par Brian Azzarello et Eduardo Risso.
Fidèle au poste.
Ouais.
Et fidèle à eux-mêmes. Oui, bien fidèle à eux-mêmes. On est toujours dans du polar noir conspirationniste. Ouais. Et c'est là que ça devient compliqué. On vous l'a déjà fait la dernière fois.
Et on vous le redit encore cette fois-ci.
Comment résumer cette série quand on en est arrivé au tome 13 ?
On ne peut plus.
Ça devient super bordélique.
Non, c'est pas bordélique. Ça devient super complexe. Parce que déjà, c'est ordonné. Sauf qu'il y a tellement de choses à raconter qu'on ne peut plus résumer.
On a tellement de personnages secondaires. Et puis pareil, le fait qu'on ait une publication où il se passe des mois entre chaque tome, on ne sait plus qui est qui, on se perd un peu dedans. Et pourtant, même si je suis un peu paumé en le lisant, je prends toujours mon pied.
Sans mauvais jeu de mots.
Je prends toujours mon œil. Et donc, ça reste une superbe bande dessinée. On va quand même essayer l'exercice du résumé en le rouvrant. Nous avons donc un des gars qui a eu la mallette, qui se retrouve à faire des tournois de boxe. On l'avait rencontré les fois précédentes. Hein. C'était l'autostoppeur qu'on avait rencontré dans les fois précédentes. Qui fait du free fight, il a la mallette, il est trop content, etc. Sauf que, on le sait, hein, il nous l'avait annoncé déjà, la photo qu'il y avait sur la personne qui était responsable de ses malheurs. C'est lui. Et donc, apparemment, on voit qu'il essaye de s'auto-défoncer la gueule en faisant du free fight, mais il fait que gagner.
Il encaisse toujours.
Et au milieu de tous ces combats-là, on se retrouve avec tous les personnages qui vont se retrouver à se concentrer autour de ça. Avec Snoop, avec un peu tout le monde. Loop, pas Snoop. Parce Loop. Qu'il y a un air. C'est vrai, il y a un air.
Il y a un air. Il y a Lono aussi qui est là.
Voilà, qui lui se retrouve à faire le fight justement. Et alors, c'est pas qui va gagner. Ça devient. Et les membres, les familles du 13 qui continuent leur lutte intestine. Et alors là, il y a des balles qui partent. Hein. Et on a aussi. Comment elle s'appelle Ah, j'ai oublié. Qui a d'ailleurs maintenant une deuxième larme tatouée.
Eh merde, je l'ai plus.
Je l'ai oublié son nom, que je l'aime bien. Bref, Didi.
Ouais.
Voilà.
Une histoire excellente. Voilà, c'est vraiment. On arrive. Je pense que ça s'est construit, quoi. Là, il faut le prendre sur la durée. Je vous dirais, lisez les 12 tomes précédents. Faites-vous plaisir.
Tu sais quoi ? On va peut-être arrêter de les chroniquer dans les émissions parce que j'ai l'impression qu'on n'y arrive plus.
Non, on le fera intégral quand tout sera fini.
Voilà, ça va être notre fil rouge. Chaque fois qu'il y en a un qui sort et qu'on l'a lu, on vous fera une chronique de 2 minutes pour dire « Ouais, c'était bien » ou bien « Oh, c'était moins bien ».
Qu'est-ce que t'as mis comme mot, toi, pour le scénar quand même sur celui-là ? C'est la dernière fois qu'on le chronique, autant le faire comme il faut.
Alambiqué.
Moi, j'ai trouvé que ça se posait. Parce que ça faisait plusieurs tomes où on se baladait d'un bout à l'autre des États-Unis pour suivre les histoires de machin d'un côté, de bidule de l'autre.
Ils se rejoignent, ouais.
Et là, ça se pose parce que t'as tout le monde qui se retrouve un peu ensemble et tu commences à voir les camps qui se dessinent, quoi.
Mais c'est vrai que quand on passait de ces histoires, on avait tous ces personnages. On avait un tome, un personnage, quoi. Mmh. C'était pas trop compliqué. Là, il y a ils sont 6 ou 7 à se tirer dans les pattes, à être chacun à un endroit différent, à faire des actions différentes, à avoir des objectifs différents. On ne sait plus qui est avec qui fait quoi, qui trahit. Et pourtant, c'est super bien écrit. D'ailleurs, au niveau du dessin, qu'as-tu mis ?
Beau.
Maîtrisé, dans le sens narratif. Il y a une... Il y a un talent, je trouve, pour raconter, à avoir parfois des images qui vont pas avec le texte. Tu vois ? C'est-à-dire que on a un dialogue, on ne sait pas qui le raconte, et on voit une scène qui a lieu.
Ouais.
Et on ne sait pas si c'est un des personnages de cette scène-là qui est en train de faire ce dialogue. Et pourtant, le dialogue passe bien. Ou bien alors, un truc qui s'amuse beaucoup à faire sur une des histoires, c'est t'as la phrase qui est coupée au milieu, tu tournes la page... Et c'est un autre personnage qui poursuit la phrase, mais sur autre chose qui n'a rien à voir. Et de la façon dont c'est dessiné, dont il passe d'une ambiance à l'autre, je trouvais ça très réussi. Donc, Undread Bullets, c'est bon, mangez-en, c'est du 13€, c'est chez Panini. Il y a encore plein de tomes qui nous attendent. On vous fera un super intégral quand on aura tout.
Tout là, c'est quoi, 62-69? Donc il nous en reste 31. S'ils mettent
6 mois pour 6 numéros.
S'ils mettent 7, non, 6 mois... mettent 7 volumes dans un truc.
C'est 6 en général.
6, ah ben 5. Hein. On arrivera à 18-19 en France.
Vu que c'est tous les 6 mois. donc.
Et ben donc, allez, on va faire simple, hein, 18 divisé par 2, dans 9 ans. Hein, voilà.
Non. 4.
Non, 5 tomes. 6 tomes. 6 tomes.
Tous les 6 mois, 3 ans. Ouais, 3 ans. Allez, dans 3 ans, vous aurez la fin de la chronique.
Putain, j'espère qu'ils iront plus vite quand même. Hein, parce que là, ça devient.
Une série quand même américaine, un peu plus facile à chroniquer.
Lock and Key. Volume 2, qui s'appelle Casse-tête, de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez, chez Milady.
Et on est toujours dans le film d'horreur.
Ouais.
Voilà, c'est du film d'horreur. Ouais.
Et il y a une adaptation qui va être faite en série télévisée.
Ouais, c'est un des projets.
C'est un projet.
Voilà. Oui, on se méfie des projets. On devait avoir Wonder Woman aussi.
Ouais, mais c'est DreamWorks qui va le faire.
Enfin, ça veut rien dire. On verra. Donc, par Joe Hill et Rodriguez.
Gabriel
Rodriguez. On avait bien aimé le précédent tome. On est dans la suite directe. Qui nous raconte quoi, mon cher Thio ?
Bien, bah la suite, la vie de ces trois gamins qui se retrouvent donc dans une nouvelle ville avec on va dire, bah, tout le passé qui commence à poindre le bout de son nez.
Passé qui ressurgit. Et toujours ces histoires de clés, c'est ça qui est important.
Ah, ça, les histoires de clés sont quand même assez intéressantes.
Donc, on vous rappelle que les gamins ont eu un traumatisme du fait que leur
papa a été assassiné.
Assassiné, voilà. Et apparemment, ça a un lien avec un ami d'enfance du papa.
Oui.
Ça, on le sait maintenant. Ami d'enfance qui était emprisonné, qui a réussi à se libérer dans le précédent tome, et qui s'est incrusté comme s'il était le filleul d'une prof qui est un autre ami d'enfance de la famille. Voilà pour résumer. Les enfants ont découvert que dans la maison où ils sont, il y a des clés et des portes qui sont de partout et qui ont des pouvoirs. Dans le précédent tome, on avait une clé qui permettait, quand on franchissait la porte qu'on avait ouverte, de quitter son corps. Il y avait une clé qui permettait de libérer donc le méchant qui était emprisonné.
Dans le puits.
Et dans un tableau.
Aussi.
En parallèle. Et là, on a une nouvelle clé qui est un peu la subtilité. Et on a Baud, le plus petit, qui cherche à savoir ce qu'ouvre cette clé. Et il cherche. Hein. Et on a une séquence magnifique quand il cherche. Est-ce que tu vois la séquence à laquelle je pense ?
Elle est superbement dessinée.
Où en gros, tu as des plans pris en contre-plongée dans des angles un peu originaux. Où à chaque case, on a une serrure bizarre ou une clé planquée dans un coin en haut d'une étagère. Pour nous montrer qu'il y en a de partout. Mais planquée, on ne voit pas, etc. Et il se rend compte que cette clé permet d'ouvrir
sa tête.
Et la tête de n'importe qui. Pour voir ce qu'il y a dedans et en enlever ou en rajouter des choses. Genre, par exemple, rajouter
des informations.
Tout le livre du cours dont on a une interro bientôt.
C'est ça.
Enlever la peur.
Ce qui fait peur.
Voilà. Et donc, bah, on va aller voir qu'ils vont utiliser ça. Et en parallèle, on a ce méchant qui s'est libéré, qui a l'air un peu plus humain que ce que j'aurais cru dans le premier tome, qui essaye de faire on sait pas quoi, en fait, encore.
Ouais, mais enfin, a priori, c'est le but n'a pas l'air très avouable, quand même.
Bah, disons que ça doit être cool pour lui, mais je pense que pour le reste du monde, ça doit pas être génial. Hein ?
Oui.
Voilà, on ne connaît pas encore l'objectif. Et bon, ben, on a tous ces personnages qui sont mêlés les uns aux autres. Et on a un peu les chocottes, parce que c'est bien écrit. On s'attache aux personnages, on n'a pas envie qu'il leur arrive des malheurs. Mais on a l'impression, en tout cas, Joel arrive à nous convaincre qu'il peut leur arriver des malheurs à n'importe quel moment.
Bah, surtout, c'est que quand tu commences à les voir jouer avec les clés, tu te dis, il n'y a pas bon.
Je trouve ça fort, les trois mômes. Je les sens pas en sécurité scénaristiquement. C'est-à-dire que
je vois ce que tu veux dire.
Qu'à n'importe quel moment, le scénariste pourrait en buter un. Il a réussi à mettre cette tension. À y réfléchir, tu dis non, il peut pas faire ça. Mais il a réussi à mettre cette tension qui fait que je me dis qu'à n'importe quel moment, il peut le faire. Qu'il va réussir. Et tout en ayant cette histoire qui est à la fois amusante, parce que quand ils s'ouvrent le crâne et tout, c'est un peu rigolo, etc. Ils ont des volontés, ils veulent tricher pour leurs examens, pour ça, pour séduire une fille. Mais il y a ce côté du passé qui ressurgit avec ses mystères, ses secrets. Et en fait, on n'apprend pas grand-chose. Hein.
Parce que tu commences à faire le tour de ce qui s'est passé avant.
Ouais, tu commences à faire le tour des personnages qui sont liés à ce qui s'est passé avant, mais...
Ouais, mais justement, du coup, en faisant le tour un petit peu des personnages, tu as quand même plus de détails, quoi.
Très clair.
Non, c'est pas encore très clair, mais ça se clarifie. Voilà. C'est vraiment, je trouve, une bonne histoire,
Qu'est-ce que t'as mis pour le scénario ?
Ça monte en puissance, quoi.
J'ai mis inventif. C'est plein de petites idées toutes cons, mais qui passent très très bien. Y a la clé qui permet de se téléporter, qui est très bien utilisée.
Après, à la fin du bouquin, vous avez une petite page qui récapitule toutes les clés qu'on a déjà trouvées.
Oui, qu'on connaît.
Après, il y en aura peut-être d'autres.
Qui sont toutes jolies, en plus.
Oui, parce qu'elles ont toutes une jolie tête.
Et au niveau du dessin ?
Détaillé.
Expressif.
Moi, ce qui m'a le plus halluciné, c'est que toutes les planches, si on y regarde de plus près, il y a une multitude de détails.
Ben moi, graphiquement, j'en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est une sorte de mélange entre Steve Dillon, dont on a déjà parlé, mais pour quelque chose de mauvais, et Geoff Darrow, qui avait fait Rusty et Big Guy, sur le truc-là. Ce côté très détaillé qu'on peut avoir dans un Geoff Darrow, et puis un petit peu plus charnel, et ce côté un petit peu gueule carrée, un peu sec, qu'il peut y avoir chez Steve Dillon, avec ses gros yeux...
Ouais.
Voilà. Mais qui est très adapté à l'histoire. Moi, j'aime beaucoup. C'est chez Milady. Ça coûte 14,90€.
C'est un très bon achat.
Ça vaut le coup.
Et donc, nous passons à la suite. D'ailleurs, je voulais vous le dire tout de suite. En fait, One Eye Pie sera un des nouveaux personnages de Seul. Il faudra le trouver dans le prochain tome.
Je pense que non. Parce qu'en fait, je suis trop vieux pour ça.
T'as pas posé la candidature ?
Non.
Donc c'est le tome 6 de Seul, de Gazzotti et Velman, donc chez Dupuis.
On a parlé de l'intégrale dans une émission précédente. Du précédent cycle, donc c'est le premier tome du nouveau cycle.
Avec la quatrième dimension et demi.
Qui est passée d'une tranche verte à une tranche violette. C'est important de ta collection.
Mais à part ça, il va bien sinon, ne vous inquiétez pas, il n'est pas stressé par le rangement de sa bibliothèque.
Que nous compte ce Seul ? Alors, attention, spoiler alert, nous ne pouvons pas parler de ce tome 6 de Seul sans parler de ce qui s'est passé dans le précédent cycle. Donc, je vous recommande de fuir jusqu'à ce qu'on ait fini d'en parler. Les timings seront sur le site pour savoir... Quand est-ce que vous devez reprendre le cours de ce podcast pour avoir la chronique de Svoboda tout à l'heure ? Donc, les enfants sont en fait morts. Quoi ?
Moi, je vais présenter le truc. Oui, on se retrouve. Il n'y a plus que des enfants sur Terre, enfin, dans un petit village, dans une sorte de grande ville.
C'est bon, on a déjà parlé
de ça. Et là, on découvre en fait qu'ils sont tous morts.
Voilà.
Fais une phrase de suite. Les enfants sont morts.
Ouais, mais c'est plus Clash, tu vois. C'est... Ah, c'est... Donc, en gros, on suit tous ces enfants qui sont morts, qui sont une sorte de nouvelle, la quatrième dimension et demie, l'ont surnommé. Hein.
Et en fait, surtout, c'est qu'ils commencent à se rappeler de comment est-ce qu'ils sont morts. Voilà.
Restent tous ces mystères du c'est bien, ils sont tous morts, mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts à peu près au même moment et qu'ils sont tous là? Quel est cet endroit étrange, en fin de compte? Parce qu'on se rend compte que l'environnement dans lequel ils sont a sa propre vie, sa propre façon de vivre, et comment ça fonctionne.
Ben, là aussi, se pose la question de savoir comment ça fonctionne.
Et surtout qu'ils ne peuvent plus mourir, ils sont déjà morts.
Oui, c'est ce qu'ils viennent de découvrir, en fait, dans le tome 5.
Ce qui a permis à Doji de revenir.
Ouais.
Mais pas qu'à Doji.
Ben, aussi à... Ah mince, au petit blond, là.
Ouais.
Draco Malfoy.
Ouais.
Celui qu'on a envie de claquer, là, tout le temps.
Voilà.
L'ancien, le fils de Rich, là.
Ouais.
Saul.
Saul, ouais, c'est ça.
Saul, voilà. Alors donc Saul a toujours sa petite clique qui commence, on va dire, à diriger une partie de la ville. Il commence à essayer de faire main basse sur certaines parties, sur certains secteurs.
Et sans une sorte de petit défi très enfantin.
De guéguerre où
ils doivent taguer les endroits qu'ils veulent pour leur clan.
Ouais.
Saul a l'art de foutre le bordel en voulant être le chef, en fait.
Ouais, mais de vraiment foutre le bordel quand même.
Ouais, ouais. Et il met le why, et donc bah, on continue à suivre un peu cette guerre, les conséquences, et puis la suite des découvertes sur cet univers étrange. Sur pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation-là, et pourquoi est-ce que certains ne sont pas revenus. Parce que normalement ils ne peuvent pas mourir, mais il y en a qui sont morts.
Ils ne sont pas morts.
Ils
sont partis dans l'ombre.
Et on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas revenus, on ne sait pas ce que c'est. Sont-ils dans les limbes, est-ce le néant, etc.
Ça devient intéressant, quoi.
Ouais, on est toujours donc dans ce truc, ce thriller d'horreur. Le genre a légèrement changé.
Ben en fait, moi, au départ, j'aurais dit, tu vois, c'est ma première idée en l'ayant lu dans
oui.
Un journal de
Mickey, Spirou.
Spirou. Ça aurait été, tu vois, c'est un truc vraiment de gamin, quoi. Mais en fait, c'est je pense que c'est plus élevé que ça, quand même.
Et donc, au niveau du scénario.
Révélation.
L'Ostien.
J'espère que ce ne sera pas comme la fin, alors.
On est toujours dans ce côté Lost. On a toujours cette peur de se dire comment est-ce que ça va s'achever. Et j'ai toujours cette peur de me dire que je serai déçu. Plus ça avance et plus je me dis... Deux solutions. Soit c'est un truc que j'attendais et je serais content. Soit c'est un truc trop bizarre et je serais déçu. Enfin, je serais déçu. Enfin, quoi qu'il arrive. Parce que si c'est un truc que j'attendais, je vais dire ça va, je l'ai vu à 15 km. Et si c'est un truc super original, bizarre, ça va me faire comme pour Lost et je vais faire ils se foutent de notre gueule.
Je vais faire confiance à Velman.
Ouais.
Non, je pense que je serais pas déçu par la fin.
Nous verrons bien. Au niveau du dessin,
coloré.
Cartoon. C'est vrai que c'est le seul truc qui fait que c'est encore de la BD pour enfants, c'est qu'il y a ce style graphique très très coloré, un peu cartoony au niveau des personnages, semi-réaliste.
Semi-réaliste, mais en même temps, tu vois, là, quand tu... C'est... Bon, voilà, moi, un truc qui m'a un peu interpellé, c'est les tenues militaires.
Oui, les enfants avec les tenues militaires.
Oui, parce qu'elles sont à leur taille.
Ah!
Et je veux dire, c'est dans tout le passage où Saul arrive avec ses copains en militaire, ils sont avec des tenues à leur taille. Donc, tu vois,
je n'avais pas vu ça du tout.
C'est pas plus grand.
Alors, deux solutions. Soit Kazotti n'y a pas pensé. Ça peut échapper des trucs. Hein. Soit ça cache un truc encore... c'est un nouveau mystère. Bien, seul, qui fait se poser des questions dans le bon sens, c'est très très sympa.
Bonne série, voilà, là aussi encore une fois un bon achat.
Et les gens peuvent revenir car nous allons maintenant parler de Svoboda.
Alors toujours chez Futuropolis.
Par Jean-Denis Pandax et Chris.
Le carnet de guerre imaginaire d'un combattant de la Légion tchèque.
Alors,
tome 1 de Praga Chelyabinsk.
On est dans de la bande dessinée. C'est du road movie historique. Ça va, j'ai bien trouvé un genre sympa.
Ouais, c'est un road movie historique, ouais.
Où on va suivre, donc... je t'ai déjà dit que j'étais nul en histoire. Je pense que tu feras mieux le pitch de la série que moi. Ah ! Quel est donc ce grand regard dans tes yeux ?
Alors, si je ne me trompe pas, mais là, vous pourrez me reprendre en laissant des commentaires sur Facebook, sur iTunes et sur tous les autres.
Sur le blog et tout.
Si je me souviens bien, au cours de la Première Guerre mondiale, les Tchèques n'ont pas eu trop le choix. Ils se sont retrouvés dans le camp des Allemands, mais sans trop de possibilités de choisir. Donc, ils se retrouvaient dans l'Empire austro-hongrois. En ayant, on va dire, les Hongrois qui dirigeaient, on va dire, le pays, mais ensuite ils se sont retrouvés dans le camp de l'Alliance.
Tadam.
Tadam. Et là, voilà. Après, je vous ai fait un petit pitch rapide.
Oui, parce qu'il a dû se passer des trucs. C'est pas aussi facile, j'imagine.
C'est pas aussi facile, mais en grande partie, c'est ça, parce qu'après, on en arrive donc à Svoboda, parce qu'en fait, voilà, ils sont passés d'un côté et de l'autre.
Et là, en gros, ils veulent retourner dans leur pays.
En fait, il faudrait, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés en Russie. Là, ils sont en Russie et il faudrait maintenant qu'ils reviennent de l'autre côté de l'Europe pour finir la guerre.
Sauf que, on doit faire le tour.
Sauf que quand on est dans l'Est russe, pour revenir en Europe, ça fait une trotte.
Mais surtout qu'apparemment, ils vont faire le tour. Ils vont passer par l'Asie.
Oui.
Pour prendre le bateau.
Pour prendre le bateau.
Ce qui est quand même le chemin le moins direct.
Oui, mais sauf que s'ils passent en voie directe, c'est un peu la guerre.
C'est un peu la guerre, c'est un peu la merde. Et donc, on va suivre les aventures de deux personnages, principalement. Enfin, il y en a un principal qui s'appelle... Attention, tu es en train de chercher le nom, je le sens.
C'est ça, c'est exactement ça.
Je suis sûr que dans le petit livret qui est à côté, tu as tout résumé super bien.
Ouais, c'est vrai.
Ce personnage-là, qui est un peu un rebelle...
Tu as Pépa.
Ouais, non, c'est pas lui.
Ben, si...
Pépa, c'est pas le personnage principal, on va dire.
C'est lui qui raconte l'histoire.
Oui, mais il nous raconte l'histoire de
Yaroslav Shvek.
Voilà, Yaroslav, qui est un rebelle, mais un rebelle, hein, genre le mec qui doit passer plus de temps au trou dans l'armée qu'à son poste. Et Pépa, donc, qui deviendra instituteur, on l'apprend par la suite, vu que c'est lui qui raconte. Et on va suivre leur parcours et surtout dans ce premier tome leur rencontre, parce que je pense que c'est aussi l'élément important avec une jeune femme.
Ouais, élément important, mais je dirais que l'intérêt intrinsèque du scénario, c'est pas tant ça, c'est plutôt justement le chemin de la liberté, quoi.
Chemin de liberté, je suis d'accord. Après, moi, j'avoue, comme je te l'ai dit, l'histoire, je ne suis pas super doué. Alors, surtout que là, on est dans un moment, un lieu, on va dire, surtout de l'histoire, que je ne maîtrise pas du tout. Je me mélange tous les noms, tous les machins choses, tous les trucs. Je ne sais pas qui est où, qui va quoi, qui doit quoi faire. Et j'étais un petit peu coincé dedans. Ça m'a donné de l'intérêt pour cette histoire. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus, mais... Pour moi, c'était pas très clair le contexte historique.
Tu as la révolution d'octobre qui a eu lieu en Russie. Donc la Russie arrête le combat avec l'Allemagne. Donc maintenant, on a le communisme. Sauf que les Russes se retrouvent avec des troupes qui sont dans leur pays et qui n'ont plus rien à y faire. Et donc ils essaient de les renvoyer dans le camp où elles doivent aller.
Ouais, ouais.
Ce qui est le cas des Hongrois et des Tchèques qui doivent passer par Vladivostok pour retourner dans l'autre côté de l'Europe.
Voilà, tu résumes vachement mieux que moi quand même.
Merci. Pour une fois.
Ouais, maintenant je ne suis pas du genre à résumer, moi je fais des grandes phrases. Et donc, c'est super intéressant de voir effectivement qu'ils cherchent le chemin de la liberté. Mais je sais pas, j'étais intéressé, mais pas emporté, pas conquis par l'histoire. Toi, plus, j'ai l'impression.
C'est ce petit côté. Vie des personnages, quoi. Mais pas la vie. La vie au sens la vie, quoi, la vie intérieure du personnage.
Ouais.
Les deux, je trouve, une épaisseur qui fait que tu rentres dans leur psychologie et justement tu vas découvrir des morceaux de l'histoire par cet intermédiaire-là. Quoi. Et tu vas voir justement la répétition ensuite aussi de, des actes des hommes, de cette guerre qui va pas en finir, quoi. De cette absurdité, quoi. C'est...
D'accord.
Et à la fois par le dessin de Peppa.
Oui, parce que Peppa est illustrateur.
Et aussi donc par...
Et en gros, Yaroslav va le prendre un peu sous son aile et sous sa protection parce qu'il est plus jeune que lui.
C'est ça. Et voilà, c'est un petit morceau un peu slave. Sur le dessin, toi, tu l'as qualifié comment ?
Alors, mon mot-clé du dessin, c'est « jeter ».
Moi, je mise sanguin.
Sanguin, explique-toi.
Bah, toutes les teintes, pour moi, elles me font penser un petit peu à un dessin. Enfin, comme si tu avais travaillé qu'à la sanguine, quoi. Et pourtant, il n'y a pas de dessin à la sanguine, on est d'accord.
Hein. Ouais, non, c'est...
Mais ce côté... orangé, ce côté rouge-orangé, tu vois, me fait penser, voilà, je dis que c'est cette teinte qui reste, on va dire, je trouve omniprésente dans tout l'album, ben, elle met l'ambiance, quoi.
Ouais, ben moi, j'ai trouvé le dessin, je sais pas, un côté comme si c'était balancé sur la planche. Alors, c'est travaillé, hein, c'est propre, ça tient la route, mais il y a un côté très direct dans le dessin. Très, bah, tu disais, hein, qui va peut-être aussi avec le style, un côté liberté, très libre dans la façon de lancer les choses. Comme si c'était fait direct, comme si c'était du dessin ancré directement, tu vois. T'as l'impression que ça m'a donné. Sans passer par le crayonné.
Ouais, c'est possible.
Voilà.
C'est possible.
Donc, toi, tu as bien aimé.
Ouais. Puis après, les petits carnets à la fin, en plus.
Oui,
ça fait classe.
Ça fait classe. Ça remet bien dans le contexte. Ben on va pouvoir passer à notre rattrapage. Nous avons un titre dans le rattrapage et c'est du manga et c'est Chi, une vie de chat.
C'est chez Glénat Kids.
Et
vraiment Kids.
Et Thio a adoré.
C'est Konami Kanata qui a fait ça.
Mmh.
Et donc, alors, si vous êtes fan des petits chatons avec des gros yeux qui ont les petites larmes et qui zozotent. Et bah, c'est trop trop bien, c'est une trop trop belle histoire, ça va raconter l'histoire d'un petit chat qui a perdu sa maman.
Oh,
on est malheureux, le petit chat, alors on pleure tous, on est tous très 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 tristes. Mais heureusement, il retrouvait pas une famille.
Ouais.
Et il va avoir une famille à lui. Et donc du coup, il va découvrir toute la vie de sa de maison.
Et de voir comment ça se passe.
Et il doit apprendre à faire pipi. Et en fait, les chats sont interdits dans l'immeuble, alors il faut qu'on le casse. Mais aussi, on va l'amener chez le vétérinaire. Et là, oh, c'est le drame. Ils lui font des sauces très, très, très méchantes.
Ça fait très pervers quand tu dis ça.
C'est Glénat Kids. J'insiste sur le mot kids.
D'ailleurs, tu notes le sens de lecture ?
Ah oui, c'est de gauche à droite. Hein. Là, c'est de l'européenne. Hein.
Mmh.
Ah ouais. Alors bon, déjà, c'est un manga en couleur.
Oui.
Alors donc, peut-être que ça peut vous plaire. Maintenant, on se retrouve quand même dans des grosses planches au collège foufoufou, tu vois, avec les larmes qui coulent, tu sais, les grosses effusions.
Ouais, c'est très stylisé, très exagéré.
Voilà. Et donc, le chat zozote, au fait. Hein. C'est, au cas où vous ne l'avez pas aperçu. C'est très très enfantin, je trouve.
Voilà, toi c'est le côté très enfantin. Essaye de te mettre, voilà.
Ton
métier, c'est travailler avec les enfants.
Mais écoute, donc je te dis très honnêtement, pour moi, le scénario, j'ai mis un mot. Bébé.
Bébé.
Ah oui.
Moi, j'ai mis léger.
Ah ben, c'est du léger, ouais.
Ouais ouais, mais et le dessin.
Simpliste.
Mignon.
Ça dépend, en fait. Voilà, la vie qu'on a, c'est.
Bah, moi, j'ai trouvé que c'était dans le genre, hein, effectivement, c'est pour les mômes, c'est tout mignon, c'est tout sympa, y a un côté tout dans les pastels, tout mignon, tout bien, c'est oui, ça change de trucs où il y a du sang et des tripes, enfin moi, je trouvais ça sympa, quoi.
Ah non, mais
tu vois, voilà, ça m'a plu, quoi, j'ai souri, j'ai...
Moi, j'ai été atterré du chapitre 1 jusqu'à la fin, quoi.
Moi, voilà. Là, tu me donnes presque honte d'avoir aimé cette BD.
Ah non, mais non, voilà. Mais écoute, tout à l'heure, on l'a déjà dit dans le chili, 1 sur 35, il n'y a pas de plaisir honteux. Hein, c'est que du plaisir, je veux dire. Chacun trouve ce qu'il veut. Moi, voilà, bon, chie une vie de chat. À la rigueur, j'aurais encore mieux préféré me regarder un vieil épisode de Lucie l'amour et rock'n'roll avec Roméo, quoi. Ça, ça aurait été drôle.
Et des crêpes.
Voilà, mais là, non.
D'accord.
Voilà, bon, c'était une.
Est-ce que tu le recommanderais quand même à quelqu'un?
Ouais, mais faut un public particulier, je pense. Hein.
D'accord. À tes élèves?
Ils sont trop grands.
Ok.
8 ans, c'est trop grand. Je pense que, à mon avis.
Faut savoir lire.
Oui, mais le problème, c'est que 6 ans, c'est trop grand aussi.
Ah ouais, quand même. Tu trouves? Je sais pas, j'y connais rien en âge de ce qu'on peut dire à quel âge.
Je sais pas, moi je dirais que c'est vraiment du truc de bébé, quoi. C'est...
Ouais.
Après, tu vas me dire, oui, mais s'ils commencent à lire, il faut bien qu'ils commencent par quelque part. Certes, mais je pense qu'ils peuvent lire des choses plus intéressantes que ça.
J'ai lu oui, hein, pour commencer. C'était pas plus intéressant.
Est-ce qu'on s'est intéressé à savoir comment est-ce que oui faisait pipi?
Non.
Est-ce qu'on s'est intéressé à savoir comment oui il allait chez le docteur?
Bon, ok, ton avis, ok. Bah, moi, j'ai trouvé ça mignon, léger, pas prise de tête. C'est une très très bonne lecture de toilette. voilà, bah, on va s'arrêter là. Hein.
Ben non, on doit faire notre hors-série.
Ouais, et puis avant de faire le hors-série, on va se faire notre meilleur du mieux.
Yes. Alors là, c'est dur.
Ouais.
Ah là, c'est dur.
Ouais. Je choisis Lock and Key.
Ben, je vais choisir Ultimate Avenger, tome 7. Non, oui. C'est une blague, c'est une blague. Non, Svoboda.
Svoboda.
Ouais. Svoboda, voilà, ce petit conte un petit peu, voilà, un peu Dylan et tout. Tu les vois en train de jouer de la musique là, dans leur train, ça m'a... Non, ça, voilà, ça m'a transporté.
Lock and Key, parce que je trouve que c'est super bien raconté, super maîtrisé, super intriguant. Et notre hors-série... Sur un film qui n'est sans doute plus en salle, mais qui sort en octobre en DVD.
Il est encore.
Je te rappelle que nous sommes le 24 juillet.
Mais là, aujourd'hui, le 9 juillet.
Voilà. Notre traîtrise est révélée. Mais il sort en octobre en DVD, donc et en Blu-ray et tout ce qu'il faut avec un super coffret de la mort avec plein de bonus, enfin.
Ouais, enfin plein de bonus, si c'est comme le premier X-Men, la version 1.5 où t'avais d'un coup, t'étais en français, puis hop. Version 1.5, il n'y a pas de doublage français parce qu'en fait on l'a pas fait. C'est des scènes en plus mais en anglais.
X-Men First Class nous raconte dans la continuité des films X-Men de la Fox, mais ce qui se passe avant, dans la continuité rétrograde.
Continuité intéressante.
Et donc va nous raconter la rencontre entre le professeur Xavier
et Magneto.
Et Eric Lencher.
Qui va devenir Magneto.
Et l'organisation qu'ils vont faire pour monter leur première équipe de X-Men dans les années 60. En pleine guerre froide, et avec la crise de Cuba qui va arriver. Et bah, autant les derniers films de la franchise, X-Men 3 était pas fantastique.
Non, en fait, X-Men 2 était pas fantastique. X-Men 3 était à vomir.
X-Men 3, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'était genre, si on tuait tout le monde, histoire de pas pouvoir faire de suite.
Non, il était à vomir.
Oui, c'est vrai.
Non, je veux dire, tu peux pas négocier. Il était à vomir, quoi.
Non, il était pas à vomir. Wolverine était à vomir.
Finalement, il était presque mieux que X-Men 3.
Ah non, c'est pas possible de dire ça.
Ah si.
Non,
X-Men 3 était quand même mieux.
Ah non, mais Wolverine avec leur Deadpool à deux balles. Ils avaient réussi dans Wolverine, alors qu'ils n'avaient que trois films avant, à te faire des erreurs dans la continuité. Tu imagines tous ces scénaristes de BD, ils se tapent 30 ans de BD derrière, ils arrivent à être à peu près cohérents avec la continuité. Les mecs, ils n'ont que trois films auxquels ils doivent faire attention, ils arrivent à se planter, quoi. C'est ridicule. Mais on parle de X-Men, le commencement, X-Men First Class, qui lui, pour le coup, est bien.
Bah, je l'ai trouvé très bien.
C'est Matthew Vaughn qui réalise. Matthew Vaughn, qui s'y connaît en adaptation de BD.
Parce qu'il a réalisé
Kick-Ass. Et, alors c'était pas vraiment une BD, mais c'était un truc illustré, Stardust.
Ah, ça par contre, c'était une moins bonne réussite.
Moi j'ai bien aimé Stardust, mais bon. Et donc, là il part sur un truc génial, un côté qui faisait un peu peur quand on voyait les premières images, parce qu'il y a un côté un peu kitsch ces années 60. Les costumes, les coupes de cheveux. Je pense que ce film n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu Mad Men. La prod aurait jamais signé s'il n'y avait pas eu Mad Men. Et c'est
Si,
pas.
si, non, elle aurait signé, mais je pense que c'est surtout qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont bankable.
Et je pense que s'il n'y avait pas eu l'actrice de Mad Men, la présence de l'actrice de Mad Men va dans ce sens, je pense. Des
Voilà.
acteurs bankable?
Vas-y, ressors-moi les noms.
Bah, les noms des acteurs, tu as, comment il s'appelle, celui qui jouait dans une autre adaptation de film de super-héros, Wanted. Enfin bon, c'est pas bankable ça.
Ouais, mais il commence à l'être.
Non mais c'est pas bankable s'il commence à l'être.
Si, si, non,
Tu as
si.
Michael Fassbender?
Ouais.
Super, il a joué dans un film de Tarantino, ça suffit à être bankable?
Il commence à. Non, je suis désolé. Non, attends. C'est des acteurs qui, juste par leur physique, te font déjà venir un public féminin.
Oui, c'est vrai.
Et là, je veux dire, ces deux-là, c'est bon.
Voilà.
Fassbender,
Et les
est-ce que.
actrices, juste par leur physique, te font venir un public
Ouais.
masculin.
Ouais. Bon, ensuite, dans le film, il y a quand même plein de petits clins d'œil qui sont excellents.
Oui, il y a des caméos assez sympathiques, assez bien foutus, effectivement. Mais c'est surtout que l'histoire tient bien la route et que tu as un vrai parallèle entre la condition des mutants et la chasse aux sorcières avec les rouges, le McCarthyisme et compagnie, qui est très 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 bien géré. Ils ont réussi à revenir un peu aux fondamentaux des thématiques de cette BD en travaillant vraiment sur le travail de l'exclusion.
Ils sont pas comme les autres, quoi.
Voilà.
Et surtout, voilà, ce que je trouvais intéressant, c'était le lien entre les
Voilà.
personnages.
Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à Adrien de venir nous dire ce qu'il a pensé de ce film. Adrien, qu'as-tu pensé d'X-Men First Class? Mais viens nous l'annoncer, je t'en prie.
Vas-y, tu peux venir, après
Allez,
tu te
viens, mais
rends.
rentre. Voilà, nous accueillons une guest star
Une guest
qui
star
vient de faire un
aujourd'hui.
caméo
Donc un spécialiste en fait de Star Wars,
de Star Wars, mais qui va nous parler
mais qui refuse de faire une
d'X-Men.
émission sur Star Wars, justement.
Et nous recevons Papinaz. Papinaz, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, tu vas nous dire. Attends, je décroche mon micro. Donc, mon très cher ami, qu'as-tu pensé d'X-Men First Class?
Alors, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Essentiellement parce que d'abord ça reprenait pas mal de petites choses qui avaient été lancées dans les trois premiers films.
Il y en a eu trois, j'avais oublié le troisième
Ah,
déjà.
c'est pour ça que j'ai hésité un petit peu, j'ai cherché.
Une question juste avant, c'est est-ce que tu penses que Wolverine était meilleur ou pire que X-Men 3?
Le problème, c'est que là, tu viens de me parler d'un film. Je le considérais pas comme un film. Non, c'était une daube. C'était une
Lequel?
daube. Non, je pense que X-Men 3 était moins pire
Ah!
que Wolverine.
T'as vraiment pas de goût, hein?
Mais c'est vraiment pour dire moins pire, hein.
Ouais, mais on t'invitera pas pour Star Wars
Voilà.
quand même.
Donc voilà, parce que d'abord, il y avait pas mal de choses qui étaient reprises et que il y avait des petits clins d'œil, des petites choses qui avaient été faites pour faire le lien avec essentiellement le premier et le deuxième film. Évidemment, vu que la scène d'introduction, de toute façon, reprenait
Oui, plan par plan, la scène d'introduction du X-Men 1.
plan par plan une scène d'X-Men, d'une part, et d'autre part pour l'ambiance aussi qui a été donnée de manière générale pour le film, et qui change un petit peu de l'ambiance qu'on a connue sur tous les autres films de super-héros. Puisque on en avait déjà discuté, je t'avais dit que moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était cette ambiance un petit peu mélangée entre les films de super-héros classiques tels qu'on nous les présente depuis quelques années, avec le héros, ses problèmes, les méchants, etc. Tout ce qui peut tourner autour du super-héros classiquement, et le côté un peu film d'espionnage.
Et à la James Bond, quand tu as Michael Fassbender qui sort de l'eau, tu as l'impression d'avoir Sean Connery dans Opération Tonnerre, c'est le même.
Ouais, sauf qu'il est quand même plus joli que
Ouais,
Sean
enfin,
Connery.
physiquement, les goûts ont changé entre-temps, effectivement.
Ouais, mais enfin, Sean Connery jeune, il est moche, quoi.
Ah ben oui, mais il plaisait dans les années 60. Ils auraient aussi. Attends, vu l'époque, ils auraient pu aussi nous la faire à la Batman des années 60. Hein. Tintin, tintin, tintin,
Ouais.
X-Men!
Mais Voilà. Alors moi, j'aurais pas pensé essentiellement au James Bond parce que, ben, peut-être déjà parce que ma culture en termes de James Bond films, je parle même pas des romans, mais des films, reste assez limitée. Mais j'avais plus assimilé à l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans un film comme Octobre Rouge, qui reprend un petit peu les mêmes thématiques, hein, avec le...
Les rouges.
Les rouges, voilà.
Les bleus.
Et la série de films, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, le héros qui est incarné par Harrison Ford.
Mais pas que.
Quoi ?
Par Harrison Ford, mais pas que.
Oui, enfin...
Oui, mais pas que. Je me souviens d'Harrison Ford. Ce fameux espion qu'il incarne dans une série de plusieurs films. Bon, voilà. Oui. Je pense que les intéressés...
auront retrouvé le titre. Bien, merci Adrien. Nous allons pouvoir conclure cette émission.
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes.
Nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé. N'oubliez pas notre sub, lavoixdesbulles.com, une vie de bulle.
Une vie de bulle.
J'invente un nom du site.
Ça fait péter la bière. Mathieu.
Sur la voix des bulles. Et n'oubliez pas le grand jeu. Vous avez le lien pour faire nos bibliothèques respectives. Et puis vous pouvez choisir un truc dont on pourrait parler à la rentrée.
Ça nous va laisser. Si vous avez une intégrale qui vous tente ou un truc qu'on a qui sort du néant et qui vous intéresse.
Voilà, voilà, à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview de Fabrice Sapolsky qui va nous parler d'Atlantique BD et de Comic Box.
On s'est déjà retrouvé avec Fabrice.
Non, on s'est pas déjà retrouvé, c'est la semaine prochaine. Et...
C'est-à-dire la semaine prochaine
le 31. Et dans 15 jours pour une émission normale.
Tu as fait un fumble sur l'émission précédente.
Eh bien, au revoir à tous et à bientôt.
À bientôt.